Parce que on croit que la Bible est inspirée de Dieu. On croit que c'est une semence qui va porter du fruit dans notre vie. Mais la Bible nous enseigne que ce qu'on croit dans notre cœur et qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche s'accomplit. C'est un principe et une loi spirituelle. Donc, c'est pourquoi on aime faire cette déclaration. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Vous le croyez? Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, je n'étais pas présent. On était en Californie. On n'a pas eu la chance d'être avec tout le monde il y a 2 semaines. Puis la semaine passée, on avait notre invité, Pasteur John et Laura Madan, de la France avec nous. Et juste avant de quitter le Canada, on était en train de faire une série sur comment marcher dans les bénédictions de Dieu. On avait déjà fait 9 semaines là-dessus. Et vraiment, notre texte clé était Galates chapitre 3. On a vu ici en Galates chapitre 3, on va juste le lire encore une fois, c'est dans vos notes, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Et vraiment, toute la prémisse, la base de notre série, c'est le fait que Dieu, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, il a fait un grand échange avec nous. Nous étions les pécheurs, et il était juste. Donc, c'est pourquoi la Bible dit qu'il est devenu péché, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Amen. On a vu que nous, la race humaine, on était susceptibles à la maladie parce que la malédiction de la loi de Moïse, ça comprenait 3 choses. La mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. On n'a pas le temps de tout revoir ces versets, mais la parole est pleine de versets qui nous montrent c'est quoi la malédiction de la loi. Et si vous voulez, vous n'êtes pas présent, je vous encourage à procurer les cassettes ou écouter sur le site web. Vous pouvez aller cliquer là-dessus et écouter tous les messages précédents. Mais on voit que la malédiction de la loi comprenait la mort spirituelle, la maladie et quoi? La pauvreté. Jésus, qui était juste, est devenu péché afin que nous puissions devenir justice. En fait, Jésus est devenu pour un peu de temps ce que nous étions, afin que nous puissions devenir ce qu'il est pour l'éternité. Amen. On voit aussi, Jésus n'a pas péché, mais il est devenu péché à la croix du Calvaire. On voit que Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin de nous enrichir. On voit que Jésus est devenu malédiction afin de nous bénir. Donc, on voit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Amen. Donc, toutes ces choses nous appartiennent à Jésus. La vie spirituelle, la santé pour nos corps physiques, et je sais qu'il y a bien des gens qui ne comprennent pas ça, mais regardez dans votre Bible, lisez les versets comme il faut et vous allez voir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et c'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est pas moi qui invente ces versets, hein? C'est Dieu qui a placé ça dans sa parole. Et en plus, on a commencé il y a quelques semaines de parler du fait que la pauvreté, c'est jamais une bénédiction. La pauvreté, selon la parole de Dieu, c'est toujours une malédiction. Hein? Quelqu'un qui a été pauvre et qui est maintenant béni va vous dire que c'est plus bénissant, laisse-moi dire, d'être prospère que d'être pauvre. N'est-ce pas vrai? On a parlé du fait que Dieu n'est pas contre l'argent, mais il est contre l'amour de l'argent. Si on aime l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais si on aime Dieu, si on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses, quelles choses? Les choses naturelles, une place pour vivre, les vêtements pour le dos, la nourriture pour manger, une semence pour semer, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Donc, la clé, c'est qu'il faut jamais courir après les richesses, il faut courir après Dieu. Et si on court après Dieu, les richesses vont courir après nous. C'est ça que la Bible dit. Lisons Deutéronome et on voit que ces bénédictions, voici les choses qui vont vous poursuivre. Amen. Donc, c'est le plan de Dieu. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de faire une dernière leçon sur ce sujet de la prospérité, du fait que Dieu veut qu'on soit béni. 3 Jean dit cela. C'est pas moi encore qui invente ces versets. 3 Jean 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La chose la plus importante, c'est une âme qui est prospère. Mais, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut un corps qui est en santé, qui va de pair avec ton âme prospère, et il veut aussi que tu prospères à tous les autres égards, comprenant votre état financier. Amen? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Dieu veut, et il est capable de faire en sorte que vous ayez toujours de quoi satisfaire à vos besoins, avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. Comme un matin, on a parlé de cette mission en Jordanie. Et vois-tu, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que chacun de nous soit capable de participer. Amen? Il y a quelques-uns peut-être disaient, moi, j'étais vraiment pas capable de faire quoi que ce soit. Mais au moins, vous pouvez prier. Amen? Et je suis convaincu que si vous mettez en pratique et vous appliquez les principes de la parole de Dieu comme il faut, vous allez pouvoir même donner la prochaine fois. Amen? Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas un évangile ou un message égoïste, au contraire. Qu'est-ce que moi j'ai découvert? Autrefois, j'avais toujours pensé à Philippiens 4:19 qui dit « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Est-ce que tout le monde peut citer ce verset? Et moi, dans ma tête, à moi, c'était « Bon Seigneur, je sais que tu vas pourvoir tous mes besoins. Ce dont j'ai besoin, c'est juste assez pour payer le loyer. » Juste assez pour acheter un peu de nourriture et juste assez pour mettre du gaz dans le char. Dans le char. Dans la voiture. Et pour moi, c'était comme ça. Bien sûr, même là, parce que moi, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours donné la dîme, c'est sûr. Je vais donner la dîme et après ça, je vais avoir juste assez. Et dans ma tête à moi, ça c'était ce dont j'avais besoin. Mais un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire, si tu penses de même, dans le fond, c'est un peu égoïste. Parce que si tu ne fais que payer la dîme et ensuite payer le loyer, acheter la nourriture et mettre un peu de gaz pour que tu puisses te rendre quelque part, là, tu n'as absolument rien qui reste pour aider quelqu'un d'autre. Et après ça, c'est comme quelque chose allumé dans mon cœur et dans ma pensée. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un superflu. Parce que moi aussi, est-ce que vous savez qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir? Combien d'années vous avez reçu cette révélation? C'est bon de recevoir, n'est-ce pas? On aime recevoir, mais laisse-moi vous dire la vérité, il faut apprendre à recevoir, parce que des fois, c'est gênant. Quand c'est toi qui reçois, quelqu'un dit, ben, tiens, je veux te bénir avec ça. Des fois, c'est gênant. On a de la misère, des fois, à accepter. Des fois, c'est l'orgueil qui embarque et dit, mais non, je n'ai pas besoin de ça, je suis capable. Mais écoute, il faut que tu comprennes que si tu ne reçois pas, tu vas voler la bénédiction. Amen. On parle des choses pratiques ce matin. On parle du fait que Dieu veut que vous soyez bénis. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. C'est pas pour mener une petite vie égoïste où on pense à soi-même et à nos besoins et à nos affaires, mais il veut qu'on lève les yeux et on regarde que la moitié de la planète n'a jamais entendu le nom de Jésus ou l'évangile de Jésus-Christ comme il faut. Au-dessus de 5 milliards d'hommes et femmes sur la planète Terre, et encore la moitié, en 2004, n'ont jamais entendu l'annonce de l'Évangile. Et c'est pour ça que Dieu veut que vous et que nous soyons prospères. Amen? Savez-vous une vérité? Je partage mon cœur ce matin. Ça tombe bien que Rebecca est venue ce matin. On parle, ça ranime encore des choses. Et ça va nous aider, parce que cette Église est appelée à être une Église mondiale, avec une mission mondiale, avec une vision mondiale. Amen. Et je sais, savez-vous une chose, que c'est un fait qu'au-dessus de 90% des missionnaires et des dollars qui ont été donnés pour et qui sont donnés pour les missions mondiales, ça vient où? D'où? Est-ce que vous savez? De quel pays? Devinez. Les États-Unis. Au-dessus de 90%, c'est-à-dire que sur 10 missionnaires, 9 viennent des États-Unis. Ah, 9 dollars viennent des États-Unis. Mais savez-vous quoi? C'est quoi ma vision? Que je crois que c'est la vision de Dieu? Nous, l'Église de Jésus-Christ au Québec, nous ne vivons pas dans le tiers monde. Amen? Nous vivons en Amérique du Nord. Nous sommes un peuple prospère. Nous avons les ressources. Vous avez juste à regarder les autos, les maisons, tout ce que nous avons à notre disposition dans cette province. Et savez-vous quoi? Et depuis 1989, ça brûle dans mon cœur. Dieu veut faire du peuple québécois. Il veut faire avec nous ici qu'est-ce qu'il a fait avec les Américains pendant des années pour les pays francophones. Dieu veut que le peuple québécois s'élève et que 90% des dollars qui sont donnés pour les 52 pays francophones viennent. Moi, c'est ce que, ça c'est ma conviction, c'est pas écrit dans la Bible, c'est ce que je crois. Amen? Combien de vous, vous croyez que ça serait de fun de faire partie de ça? Savez-vous, trop souvent, on regarde qu'est-ce que Dieu a fait. Et là, c'est pas parce que je suis né aux États-Unis que j'ai dit cela, c'est juste un fait. Vous savez, les statistiques parlent, n'est-ce pas? Et ceux qui ont étudié comment ça fonctionne avec les missions mondiales, ils savent que qu'est-ce que je dis, c'est la vérité. Point final. Mais Dieu veut que la mentalité change chez nous. Dieu veut qu'on s'élève et qu'on arrive à notre place que Dieu a destinée pour nous, où c'est nous qui, nous allons envoyer les missionnaires et nous allons envoyer les dollars missionnaires aussi. Mais si vous dites, oh Seigneur, merci, je vais avoir juste assez pour payer mes factures, juste assez pour mettre un peu de gaz dans l'auto, si j'ai une auto. Non, là, je dis cela parce que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que votre vision grandisse. Vous êtes aussi important que n'importe qui. Il n'y a pas une personne sur la planète qui a plus d'importance que toi. Si tu es né de nouveau, tu es autant fils du roi ou fille du roi que n'importe qui. Tu es dans une famille royale. Et Dieu veut vous bénir. Mais le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qui arrive? On est tellement habitué des personnes qui pensent, mais moi, je suis venu au monde, je suis né pour un petit pain, etc. Je suis destiné à vivre dans la pauvreté le restant de mes jours. Et on commence à être jaloux des autres personnes. On voit les bénédictions qui se produisent chez les autres. Et au lieu de dire, merci Seigneur, je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Et je sais que tu ne fais exception de personne, tu ne fais pas de favoritisme. Si tu as fait ça pour un de tes enfants, tu vas faire la même chose pour moi. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut vous aider. Je parle vraiment terre à terre ce matin. Dieu veut élever votre sens, vos attentes dans cette vie. Attendez-vous à mieux que qu'est-ce que vous avez eu dans le passé. Attendez-vous à avoir un meilleur emploi. Attendez-vous à avoir un meilleur salaire. Attendez-vous à avoir votre propre maison. Si c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu pour tout le monde, mais laissez-moi vous dire, je l'ai dit l'autre jour, des fois, vous pouvez devenir propriétaire d'une maison et c'est encore moins cher que louer. Mais dans la pensée de plusieurs, mais moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Pourquoi pas? Mais moi, ça c'est pas comme ça pour... Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut travailler? Oui. Est-ce qu'il faut peut-être faire des changements? Oui. Est-ce qu'il faut investir de votre temps pour changer votre façon de penser, changer vos habitudes? Oui, parce qu'un homme diligent va être récompensé. Si vous pensez que vous allez vous asseoir en disant, mais je suis le fils du roi et l'argent va tomber du ciel sur moi. Ça marche pas. Non, ça marche pas comme ça. La Bible dit que celui qui travaille mange. Mais je n'ai même pas planifié de dire tout cela ce matin, mais c'est bon, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un monde à gagner. Il y a des nations qui sont accablées, qui sont dans les ténèbres. Les personnes qui sont précieuses. Moi, je pense à ce peuple arabe. Et comme Rebecca a dit, le peuple arabe, c'est un peuple très amical. Et ça, c'est vrai. Souvent, les personnes pensent, oh, les Arabes, ils ont d'autres idées. Les stéréotypes, ils sont attachés à cette race de personnes. Mais mon expérience, en vivant dans le sud de la France, où en France, il y a 7 musulmans pour chaque évangélique, nos voisins, on avait des voisins qui étaient musulmans. Laissez-moi vous dire, ce sont parmi des personnes les plus chaleureuses que j'ai jamais rencontrées de toute ma vie. Et j'en connais ici à Drummondville. Ce sont parmi des plus gentils du monde que j'ai jamais rencontrés. C'est vrai. Mais ils sont perdus. Ils ont besoin de l'Évangile. Qui va les annoncer cet Évangile? Qui va amener ce message de liberté à ceux qui sont liés dans les ténèbres? Qui va apporter cette bonne nouvelle? Dieu ne va pas envoyer les anges pour le faire. Il va nous envoyer pour le faire. Amen? Et comme j'ai dit autrefois, si on se présente à l'aéroport de Dorval ou Pierre-Éliott Trudeau aujourd'hui, on ne peut pas se présenter au comptoir en disant, mais moi, tu sais, je veux aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans les ténèbres. Donne-moi un billet gratuit. Ils vont dire, donne-moi une carte de crédit. Amen. Ici, on a vu déjà dans nos textes que Jésus est devenu malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis avec Abraham. Galates chapitre 3, 9, c'est dans vos notes, dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Tout le monde dit, je suis béni avec Abraham le croyant. Mais pourquoi est-ce que nous sommes bénis? Genèse 12, si tu veux aller avec moi, Genèse chapitre 12, on va voir qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham. Si nous sommes bénis avec Abraham le croyant, nous sommes bénis pour la même raison qu'il était béni. Dieu n'a pas vraiment un plan B. Savez-vous que Dieu a toujours eu un plan A et que son plan a toujours fonctionné? Savez-vous qu'il y a des fois des personnes pensent que, oh, mais vois-tu, Dieu avait l'ancienne alliance, mais ça n'a pas fonctionné. Il était vraiment surpris, donc il avait besoin de trouver une autre idée. La Bible dit que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation. Avant Dieu a dit qu'il y a soir et la lumière fut, il savait qu'il aurait besoin d'envoyer son fils Jésus. Il savait qu'il aurait besoin de vous envoyer aussi. Amen? C'est le même plan. Et ici, il y a des personnes qui pensent, mais c'est quoi l'affaire? Moi, j'ai déjà rencontré une personne dans un hôtel à Montréal qui a dit, en fait, c'était une personne qui venait de Jordanie, je pense. De Moyen-Orient. Et il a dit que moi, il y a une chose que je sais tout de suite en partant que je ne crois pas à la Bible parce que la Bible dit que les Juifs sont le peuple choisi de Dieu. Et si Dieu a un peuple favori, j'embarque pas dans cette affaire. C'est ça qu'il m'a dit. Mais puis j'ai expliqué, mais tu sais sur quoi Dieu a choisi le peuple juif? Il y avait une raison. Il avait un but. C'était pour bénir toutes les nations de la terre. Il cherchait un moyen d'introduire son fils dans ce monde. Il avait besoin de choisir un peuple qui aurait la foi et qui serait capable de marcher dans ses voies pour pouvoir introduire le sauveur du monde pour sauver chaque nation, chaque peuple, chaque langue et chaque tribu. C'est pas parce que Dieu aime les Juifs plus qu'il aime les autres, plus qu'il aime les Arabes. Il aime les Arabes autant qu'il aime les Juifs. Mais il avait besoin d'utiliser les Juifs pour introduire son fils. Amen. Genèse 12, 2 dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Amen. Autrement dit, je serai une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est le plan de Dieu. chaque langue, chaque nation, chaque tribu. Dieu aime le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Fils unique. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. N'est-ce pas vrai? Donc, Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. Première chose dans vos notes. Sachez-le, Dieu veut faire de vous. Tout le monde dit, Dieu veut faire de moi une source de bénédiction. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, mais sur le plan financier aussi. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont appelées, ils ont même le don de motivation, de générosité, ils vont donner peut-être plus en volume que quelques autres. Ça, c'est correct. Mais tout le monde est appelé à participer. Amen? C'est comme il y a certaines personnes qui sont appelées à l'office d'évangéliste, et eux autres, ils vont amener plus un nombre de personnes au Seigneur, mais tout le monde est appelé à évangéliser, n'est-ce pas? Regardons bien. On voit une autre chose bien importante. Dieu veut vous bénir. Pourquoi? Afin de confirmer son alliance. Quand Dieu commence à vous bénir financièrement, il faut que vous vous rappeliez pourquoi. Ce n'est pas juste parce qu'il veut que vous viviez dans une belle maison. Est-ce qu'il y a... Moi, j'aimerais voir chaque personne ici dans cette salle dans une belle maison. Ou un bon appartement. Amen. C'est ça mon désir pour vous. Et savez-vous que si je le veux, imagine à combien plus fort raison on peut dire que ton Père Céleste le veut pour vous aussi. Amen. Dieu dit on est supposé d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Et je pense que c'est un meilleur témoignage même si on est capable de démontrer une vie victorieuse à ceux qui nous entourent. Amen. Qu'est-ce qu'on veut annoncer au monde? Moi, je sais. Je sais qu'est-ce que c'est d'avoir des luttes et des difficultés et les défis financiers. Et je suis pas en train de dire que, on pointe pas les doigts. Non, on dit, vous êtes capable vous-même. Dieu n'a pas de favori dans sa famille et Dieu veut que vous soyez une source de bénédiction. Dieu veut confirmer son alliance à travers votre vie. Amen. Garde-toi. Deutéronome 8, 17 dit ceci. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir. Dieu te donnera la force pour accueillir quoi? Selon le contexte du verset 17. Hein? Dis ça plus fort, s'il vous plaît. Mais quoi? Mais je pensais que c'était pas spirituel, les richesses. Dieu va vous donner la force nécessaire pour accueillir les... Il y a juste 25% de vous qui le croyez. Ça, c'est pas mal biblique même, hein? Il y a quatre genres de terre. Un semeur est allé semer la parole, une partie est tombée. Il y avait quatre genres de terre. Au long du chemin, ils n'ont pas compris et les oiseaux sont venus voler la semence tout de suite. Il y a d'autres, c'est tombé parmi les roches. Oh oui, bonne nouvelle. Puis, il n'avait pas de racines, c'était pas profond. Quand les temps difficiles, les tribulations sont venues, fini. Parmi les épines, oh oui, je crois ça, mais puis les soucis de ce siècle, ont étouffé la parole. Mais puis, il y avait la bonne terre. Une terre sur 4, 25%. Mais je suis convaincu que j'aimerais que nous fassions exception à ce pourcentage. Amen. J'aimerais que chacun de vous, vous croyez pour vrai que vous êtes capable de prospérer. Amen. Amen. Alléluia. Des fois, les personnes se fâchent avec moi. Quand je dis, tu sais, tu peux être béni, tu peux prospérer, ils se fâchent. C'est comme ils veulent lutter. Dis-moi pas que je peux prospérer. Dis-moi pas que je peux être béni. Dis-moi pas que je peux être guéri. OK? Mais Dieu vous aime. Et aujourd'hui, peut-être la situation, il vous semble que c'est impossible d'en sortir. Je suis là pour vous donner une espérance et une bonne nouvelle. Je n'ai pas promis que ça va changer du jour au lendemain. Mais si vous mettez la parole de Dieu en pratique, ça va changer. Amen. Et ça prend des fois, des heures, des jours, des mois et même des années. Mais si vous êtes fidèle, un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Amen. Je vous donne pas abracadabra, bon, vous êtes prospères ce matin. Je vous présente la parole de Dieu qui dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et si vous êtes partant, je vous assure, garantie, c'est des personnes qui vont à chaque semaine aller acheter des billets de loto parce que peut-être, cette semaine, ça va être à moi. Si je gagne l'auto, je vais te donner aux missions. Vous riez, mais c'est la réalité dans l'Église. Dès que je gagne l'auto, là, je vais pouvoir être généreux. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous commenciez là où vous êtes. Vous avez de la misère à payer vos factures? Commencez là où vous êtes. Donnez qu'est-ce que vous pouvez. Et le Seigneur, au fur et à mesure, va vous en faire sortir. Amen. Oh, wow, je dis la vérité. Avec amour ce matin. Amen. Vous m'aimez toujours? Vous n'êtes pas fâché avec moi parce que je vous dis que vous pouvez être béni? Bon. Romains 10, 13 dit ceci, car quiconque invoque... Mais regardons bien, j'ai oublié une chose. Deutéronome 8, 17 et 18 dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour accueillir les richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Pourquoi est-ce que Dieu voulait prospérer la nation d'Israël? Pour confirmer son alliance dans le but de chaque nation de la planète. Et si le Seigneur commence à vous bénir, oui, vous pouvez vivre dans une belle maison. Oui, vous devriez, si vous voulez avoir une belle auto, aucun problème. Oui, vous pouvez vous habiller comme il faut, mais cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, la maison, l'auto, les vêtements, les autres belles choses que vous voulez, ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Amen? Cherchez d'abord, premièrement, son royaume et sa justice. Ça me fait penser à Romains 10, 13 qui dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Chaque personne au Pérou qui croit au Seigneur, qui invoque le nom du Seigneur, va être sauvée. Mais il ne peut pas entendre l'Évangile à moins que l'équipe soit envoyée pour prêcher. Je suis sûr que Rebecca va rencontrer des personnes clés, des personnes stratégiques pour la Jordanie. Mais il ne peut pas invoquer le nom du Seigneur avant de croire. Il ne peut pas croire avant d'entendre. Il ne peut pas entendre à moins qu'elle prêche. Elle ne peut pas prêcher à moins qu'elle soit envoyée. Qui va l'envoyer? Nous avons fait notre part ce matin. Et on va continuer dans la prière de la soutenir aussi. Amen. Même chose pour Alice, elle ne peut pas aller à moins d'être envoyée. Mais comment est-ce qu'on peut l'envoyer si on est cassé et on n'a absolument rien à donner? Si tout le monde est cassé, personne ne va nulle part. C'est la dure réalité. Mais le contraire est vrai. Si tout le monde est béni et si tout le monde cherche d'abord le royaume de Dieu, on peut envoyer des milliers. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Moi, je suis heureux. Et vous? Amen. Troisième chose dans vos notes ici, nous devrions toujours travailler dans le but d'avoir de quoi donner. Pourquoi est-ce que vous allez au travail? Gagner l'argent, mais on devrait changer un peu notre mentalité. Première raison pour laquelle j'aille travailler, parce que le Seigneur dit qu'il faut travailler. C'est un bon témoignage. Mais deuxièmement, je sais qu'en travaillant, je vais gagner un salaire. Donc, la première chose que je vais faire, je vais redonner à Dieu le premier 10%. Parce que le premier 10% lui appartient. La dîme appartient à l'Éternel. Amen. Et en faisant ça, en menant ma dîme à la maison du trésor, c'est-à-dire l'église locale, je vais soutenir le ministère de l'Église locale et l'Église va pouvoir continuer à vivre et à faire ce que le Seigneur nous a appelé faire. Amen? Mais après ça, c'est sûr que j'ai besoin de payer mes factures, d'acheter les choses pour ma famille, de prendre soin de ma famille. La Bible dit qu'un homme qui ne prend pas de soin de sa famille est pire qu'un infidèle. La Bible dit. Donc, les personnes qui pensent, mais oh, moi, je ne m'intéresse pas à l'argent, je suis plus trop spirituel pour ça, et qui dit à sa femme, oh, mais je n'ai pas besoin d'aller travailler, je vais rester à la maison prier, je vais faire des études bibliques, mais sa famille crève de faim, ce n'est pas un homme spirituel. Amen? C'est une autre chose si une personne essaie. Ce n'est pas un message de culpabilité, c'est juste la vérité aujourd'hui, hein? Il faut aller travailler pour donner la dîme et aussi pour pourvoir aux besoins de la famille, mais notre mentalité devrait être, Seigneur, je veux avoir encore plus de semences. Je ne travaille pas juste, hein, en anglais, ça se dit bien. I'm not working for a giving, a living, I'm working for a giving. Je ne travaille pas pour gagner mon pain, je travaille pour gagner mon monde. Amen? Vous êtes encore là? C'est la Bible qui le dit, pas moi. Donc, si vous voulez jeter, lancez les pierres, lancez-les à l'apôtre Paul, il n'est plus là. Éphésiens chapitre 4, verset 28 dit, « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. » Autrement dit, c'est bon de travailler. « En faisant de ses mains ce qui est bien. » Pourquoi? Pour avoir de quoi? Plus fort, s'il vous plaît. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 2 Corinthiens 9, 6 dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Qui veut moissonner abondamment? Donc, il y a juste une petite chose, une petite condition. Pour ramasser abondamment, qu'est-ce qu'il faut faire abondamment? Semer ou donner. Le contexte de ce verset, c'est le contexte d'une offrande volontaire pris pour les pauvres à Jérusalem. OK? Verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec... Savez-vous que Dieu aime celui qui donne avec joie? Et Dieu peut... Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut vous combler. Ici, c'est la vie comblée, n'est-ce pas? Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous ayez encore en abondance. On va le dire ensemble. Encore en abondance. Encore une fois. Encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez, comme on dit, moi je serai, de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ça c'est la Bible, c'est pas Pasteur Ken. Amen? Encore, vous n'aimez pas ça? Vous voulez... Dire, non, dis-moi pas que je peux être béni ou prospère. Lancez les pierres à Paul. C'est pas moi. Dieu veut que vous soyez béni. Il veut que vous ayez toujours de quoi satisfaire tous vos besoins avec un superflu, en abondance, pour participer à toute bonne œuvre. Mais vous dites, mais je ne suis pas encore rendu là. Commencez là où vous êtes. Prenez les petits pas. La veuve a donné deux petites pièces de monnaie et Jésus a dit, elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Faites pas l'erreur quand vous avez 1000 dans votre poche de donner deux petites pièces en disant, ah mais moi j'ai donné plus que les autres. Non. Pour Dieu, et je vais dire quelque chose qu'il y a quelques-uns qui vont dire, ah ça se peut pas, mais c'est vrai. Dieu ne regarde pas le montant, mais il regarde le pourcentage. C'est comme ça. Dieu regarde le pourcentage. Quelqu'un qui a 10 $ dans sa poche et dans son compte à banque et qui donne 5 $, il vient de donner 50% de tout ce qu'il a. Tandis qu'une personne qui a 1000 $ dans son compte à banque, mais qui donne 100 $, il n'a donné que 10%. Qui a donné plus? La personne qui a donné 50%. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on regarde. À chaque fois qu'on reçoit Dieu, il donne de la semence au semeur. ça me dit quelque chose. Il donne la semence à celui qui a l'habitude de semer. Hein? Si je frappe une balle de baseball une fois, est-ce que je suis un joueur de baseball? Non. Si tu lances une petite offrande dans le panier une fois, est-ce que vous êtes un semeur? Mais si à chaque fois que ça passe, vous dites, je sais qu'elle parle de l'argent, elle me dit, non, c'est Dieu. Je veux que vous soyez bénis. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il y a la moitié de la planète qui n'a pas entendu l'Évangile. Amen. Je ne peux pas penser à une chose plus spirituelle que ça, amener l'Évangile à chaque nation. Et vous? Donc, pensons à ça. Seigneur, quand je reçois de quoi, je devrais te poser la question, est-ce que ça c'est de la nourriture à manger, du pain à manger, ou est-ce que ça c'est une semence à semer? À chaque fois, mangez pas votre semence. Amen? Alléluia! Et ce n'est pas votre pain non plus. Mais oh, ok. Parce que je sais que si je donne la dîme, si je fais ça, je n'aurai pas assez pour acheter mon pain. Non. Première chose que tu fais, avant d'acheter ton pain, tu donnes la dîme. Parce que ça va assurer que les portes des écluses des cieux vont rester ouvertes sur toi. Tu vas pouvoir recevoir les bénédictions et tu vas pouvoir donner davantage. Mais après avoir donné la dîme, ne faites pas des choses stupides. Hein? À moins que le Seigneur vous le dise, ne videz pas votre compte à la banque à chaque semaine. N'ayez pas peur de manger à l'occasion non plus. Amen. Il donne du pain à celui qui mange et il donne la semence pour sa main. Trouvez l'équilibre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. On va juste finir avec un dernier verset. Je sais que on a encore 10 minutes avant midi. Est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes? Sinon, on se verra la semaine prochaine. On a pris 10 minutes ou plus avec tous les préliminaires. Ce n'était pas les préliminaires, ça faisait partie intégrale de la réunion ce matin. Alléluia. Mais en Philippiens chapitre 4, tout le monde peut citer le verset « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais savez-vous que si on lit le contexte de ce verset, il y a des conditions à rencontrer. Vous êtes là? Regardons bien qu'est-ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, a dit en verset 10 de Philippiens 4. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments, souligner l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Juste parce que Dieu vous a donné la promesse de la prospérité ne veut pas dire que vous allez toujours, en toute occasion, avoir la manifestation de votre prospérité devant vos yeux. Amen. Comme j'ai dit, un homme qui est millionnaire, qui fait naufrage dans une île déserte, la portefeuille est au fond de la mer, est-ce que l'homme est pauvre? Non. Il n'a pas accès à sa carte de crédit ou à son compte de banque. Temporairement, il est privé de cet accès. Mais il sait que dans le fond, il est millionnaire. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Donc, n'importe quand et n'importe où, vous êtes riche en Jésus-Christ. Amen? Sauf que ça peut être le cas que pour des courtes périodes, des saisons, vous avez des épreuves où vous avez besoin de mettre votre foi en action et croire. Seigneur, j'ai rien maintenant, mais je crois que tu vas pourvoir tous mes besoins au nom de Jésus. Amen? Et souvent, qu'est-ce qui arrive quand on parle de la prospérité? Ça dépend de la volonté d'une autre personne. Je ne vais jamais oublier, Tania et moi, on n'avait absolument rien pour une semaine. Comme je dis, on ne crevait pas de faim, mais on n'avait pas beaucoup à manger cette semaine-là. Et si on recule à peu près 15 ans, et on faisait confiance à Dieu, Seigneur, merci que tu as dit que tu allais pourvoir nos besoins. Et cette journée-là, quelqu'un est venu, ma tante est venue, elle ne savait pas qu'on avait de la difficulté, elle est venue avec un poulet rôti, on a mangé, on a dit merci Seigneur. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après, mon ami, un de mes meilleurs amis est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, il y a à peu près un mois, j'étais dans la prière et le Seigneur m'a dit d'aller t'apporter un billet de 100 $, mais je ne l'ai pas fait. Il n'a pas offert de le faire là non plus. Mais vois-tu, en quelque part, j'avais un besoin et le Seigneur essayait, parce qu'il a besoin de travailler à travers les hommes, n'est-ce pas? Il y a une personne qui était supposée d'aider, et la personne a dit non, je ne veux pas. Même chose ici, Paul est en prison. Et Paul avait besoin de l'aide des autres chrétiens des fois. Et des fois, comme il a dit, « Ah, je suis content que tu as renouvelé encore les sentiments de votre cœur pour moi. Je sais que tu étais toujours dans ton cœur, mais tu manquais l'occasion. » Donc, dans le fond, il était privé de quelques provisions pour une saison parce que d'autres personnes n'étaient pas capables de le faire. Amen. Mais regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Comment on dit donner et recevait? Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pour voir mes besoins. Est-ce que tu vois l'image? Quand Paul est parti en mission, il y avait une seule église qui voulait être partenaire avec lui comme missionnaire. C'était l'église des Philippiens. Et deux fois, ils ont envoyé les biens matériels pour aider l'apôtre Paul. Amen. Puis, il continue, il dit, « Car vous m'envoyez déjà deux reprises, de quoi pour voir mes besoins. » Verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Soulignez la phrase « votre compte ». Intéressant, n'est-ce pas? « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Et là, verset 19 dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que Dieu a dit que mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins, Philippiens? Parce qu'ils sont entrés en compte avec Paul. Ils sont entrés en compte avec lui en ce qui concerne donner et recevoir. Donner. Jésus a dit donner, il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, sécuée et qui déborde. Amen. C'est Dieu qui le dit. Donc, est-ce que vous voyez le principe? Je sais, regardez-moi droit dans les yeux. Il y a quelques personnes qui sont obligées de bouger, mais je ne veux pas que vous manquiez ceci. Je ne vais pas être comme Paul. Lui, il a prêché jusqu'à minuit. Tu es un membre de la jeunesse, mais il a ressuscité plus tard. Non, je ne vais pas aller jusqu'à minuit, mais regardez bien. Juste quelques minutes de plus. Le Seigneur veut que vous soyez prospères. Dieu veut pourvoir tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Pour qui est-ce que cette promesse est faite? C'est pour ceux qui sont entrés en compte avec l'œuvre de Dieu. Et Paul a dit, il n'y a aucune autre église qui est entrée en compte en ce qui concerne donner et recevoir, sauf vous autres. Mais je sais que Dieu va pourvoir tous vos besoins. Il ne parle pas en un individu non plus. Je parle que le principe s'applique en individu. Mais savez-vous que si les besoins de cette église locale vont être pourvus, savez-vous la meilleure chose pour nous de faire? C'est d'entrer en compte avec ceux qui travaillent dans la moisson pour ramasser la moisson de ces derniers jours. Parce que si on s'occupe des affaires de notre Père, il s'occupera de nous. Individuellement, ça marche. Occupez-vous des affaires du Père, il s'occupera de vous. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Là, j'ai dit 10 minutes, je n'ai qu'une seule minute qui reste, donc il va falloir que je vous donne la réponse aux 4 autres choses une autre fois. Mais on va juste suffire de dire ceci. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu a un cœur qui est grand. Le battement de son cœur, c'est les nations, les peuples, les tribus, les autres langues. Il veut atteindre chaque homme, chaque femme, chaque créature avec l'Évangile. Mais pour atteindre ces nations, ces pays, il a besoin de nous. Quelques-uns de vous, vous avez besoin d'être formés pour prendre l'avion et d'aller vous-même. Il y a d'autres, vous allez prier. Mais nous avons, en fait, moi je crois que tout le monde devrait prier pour les missions. Et tout le monde devrait donner pour les missions. Vous dites, mais moi je parle de grande chose. Donnez comme votre, vous avez résolu dans votre cœur. Sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous dites, oh, mais si je gagne le loto, je vais donner des milliers. Je ne crois pas à ça. Je ne vous crois pas. Pourquoi est-ce que je ne vous crois pas? Parce que vous achetez, vous dépensez en billet de loto votre dîme. Donc, vous volez Dieu. Je dis ça. Et deuxièmement, du peu que vous avez, vous ne donnez rien. Dieu a toujours dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vais vous confier les plus grandes. C'est-à-dire que quand vous avez 5 $ dans votre poche pour la semaine, même si vous donnez 5 sous, c'est quelque chose aux yeux de Dieu. Soyez fidèle avec les 5 sous, il va vous convier plus, vous serez capable de faire 5 $. Quand il pourvoit 5 $, et soyez fidèle avec, vous allez voir, ça grandit. 10, 100, 1000 et plus. Amen. Est-ce que vous avez hâte de voir votre vie changer? Avez-vous hâte de voir la prospérité en manifestation chez vous? C'est une question du cœur. Une question du cœur. Seigneur, qu'est-ce que j'aime plus que tout dans ce monde? Est-ce que j'aime les choses ou est-ce que je t'aime? Est-ce que j'aime ton œuvre? Si je t'aime et j'aime ton œuvre, tu vas pouvoir mes besoins. Amen. On va se lever debout. Je vais respecter ma parole. On va arrêter là. Même si je pourrais facilement continuer une autre heure. Pourquoi? Parce que la vision brûle dans mon cœur.